Réplique, la mémoire de la guerre d'Algérie avec François Dorcival et Benjamin Stora. Je propose de commencer cette conversation avec François Dorcival, qui est éditorialiste à Valeurs Actuelles, et avec Benjamin Stora, qui préside le conseil d'orientation du musée de l'histoire de l'immigration, par le sujet qui fâche. Le président de la République, François Hollande, a décidé de commémorer le 19 mars dernier le cessez-le-feu bilatéral qui a suivi en 1962 les accords d'Évian. En réponse à cette initiative, Valeurs Actuelles a publié une pétition intitulée « 19 mars, non à la commémoration de la honte et du déshonneur ». Où est la honte, où est le déshonneur, François Dorcival ?
C'est dire si la mémoire est vive, parce que ces deux mots-là, qui sont des mots très durs aujourd'hui, ce sont en réalité des mots d'époque. Je veux dire par là que le 19 mars 1962 a été ressenti par une partie non négligeable, mais une partie dans laquelle figurent beaucoup de nos lecteurs, ces mots de honte et de déshonneur. Et le président de la République, d'une certaine façon, quand il intervient le 19 mars dernier, en prononçant son discours, il donne trois dates déjà de commémoration qui se sont succédées les unes aux autres. Celle du 19 mars, dont il fait désormais une journée nationale, mais également celle du 25 septembre et celle du 5 novembre. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous mettre d'accord sur cette mémoire tant elle reste vive dans l'esprit de ceux qui ont vécu ou qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie. Et au fond, c'est cette opposition à l'intérieur de nous-mêmes, je ne dis pas de nous-mêmes à Valeurs Actuelles ou dans les journaux, mais de nous-mêmes, corps communauté française, qui est une sorte de mystère de la fin de la colonisation. Et on n'a pas fini de le traiter.
Oui, mais si les mots ont peut-être été prononcés le 19 mars 1962 par ceux qui étaient attachés à l'Algérie française.
Oui.
Mais les raisons invoquées dans la pétition ne sont pas celles-là. Elles ne témoignent pas d'une nostalgie de l'Algérie française. Ce que dit la pétition, c'est que le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a jamais été respecté et que loin d'avoir marqué la fin de la guerre, il symbolise bien au contraire le début du déchaînement des violences contre les Français d'Algérie. Donc l'idée, c'est qu'en effet, avec cette date, on fait bon marché de ce qui a suivi et dont nous avons parlé. Je crois que c'est la raison pour laquelle d'autres personnalités, des personnalités politiques, notamment Nicolas Sarkozy, ont critiqué l'initiative de François Hollande. Et c'est la raison pour laquelle les précédents chefs de l'État n'ont jamais voulu commémorer cette date, François Dorcival.
Absolument. D'une certaine façon aussi, là encore, le président de la République énumère tous les drames qui sont ceux qui précèdent et suivent ce 19 mars. Et comme il parle de l'armée française déchirée, il parle des Français d'Algérie qui savent qu'ils vont partir, il parle des supplétifs de l'armée française, etc. Et tout ça s'étale non seulement jusqu'à l'indépendance du début de juillet 1962 avec des massacres, des enlèvements, des attentats, des choses épouvantables comme l'armée française conduite à tirer contre des Français, des pieds noirs. Et ceci ne va pas se terminer encore, au point que, d'une certaine façon, cet événement, médiatiquement, a été absolument couvert. Non pas couvert par les radios, les chaînes de télévision, etc., mais étouffé. Et par quoi a-t-il été étouffé ? Par l'arrestation de Salah Abdeslam en Belgique, préface aux événements qui allaient suivre, le 22 mars, ça a été étouffé par cet événement, comme si il nous renvoyait aujourd'hui un écho terrifiant de cette guerre d'Algérie.
Benjamin Stora.
François Dorcival a raison sur ce point. Ce sont effectivement les mots d'époque. Les partisans de l'Algérie française, dès cette époque, étaient contre les accords d'Évian, indépendamment de ce qui allait se passer par la suite. Ils étaient contre parce qu'ils savaient que ça allait ouvrir effectivement la possibilité d'une séparation avec la France et donc de l'indépendance de l'Algérie. Donc dès le 20 mars, le 21 mars 62, ils étaient absolument contre ces accords d'Évian. Il faut le dire parce que, bien sûr, ce qui s'est passé ensuite est absolument épouvantable. Ça a été dit, il faut le rappeler ici, bien sûr. Le 26 mars, la fusillade de la rue d'Isly, ça c'est fondamental.
C'est quoi,
la rue d'Isly, c'est une manifestation d'Européens, d'Algérie, qui voulait briser l'encerclement d'un quartier qui était celui de Bab El Oued, qui était encerclé par l'armée française, et des soldats français ont tiré, disons, sur cette foule d'Européens d'Algérie, ces manifestants. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. Ça a été le 26 mars, donc une semaine après les accords d'Évian. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, d'autres événements tout aussi terribles, hein. Il faut signaler aussi l'assassinat du grand écrivain algérien Mouloud Feraoud.
Oui.
Par un commando de l'OAS,
oui.
Avec d'autres qui appartenaient à ce qu'on appelait les centres sociaux qui avaient été créés par Germaine Tillon. Donc ça a été aussi épouvantable. Je veux dire, moi, lorsqu'il est question de cette fin de guerre d'Algérie, comme de la guerre d'Algérie en elle-même, je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire borgne. Je crois qu'il faut regarder tous les aspects. Les voitures piégées, les assassinats, les massacres de Harki, bien entendu, les enlèvements d'Européens à Oran, le 5 juillet 62. Mais j'ajouterai également les massacres de Messalistes, dont on ne parle pas beaucoup, parce que les Messalistes ont été aussi des grands
vaincus. Comme vous avez raison.
Massacre des Messalistes,
oui,
par le FLN.
Les règlements de compte, absolument. Et puis ensuite, à l'été 62, les luttes de pouvoir. Pour conquérir le pouvoir en Algérie, les affrontements, enfin je ne vais pas ici refaire toute cette histoire de la Vilaya 3 notamment, qui voulait conserver le pouvoir contre le GPRA, enfin bref, ça a donné lieu à beaucoup de morts aussi du côté algérien. Bref, une sortie de guerre qui a duré plusieurs mois, presque jusqu'à la fin de l'année 62, qui a été absolument épouvantable. Mais le problème, c'est que le 19 mars 62, c'est effectivement une inclinaison. C'est le fait que l'histoire va changer de cours, va prendre une autre direction. Et c'est cela, effectivement, qu'un certain nombre d'associations d'anciens combattants ont voulu marquer, comme par exemple la FNACA, c'est pas un secret, qui revendique cela depuis très longtemps.
C'est quoi la FNACA ?
La FNACA, c'est la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, qui a 350 000 adhérents, et qui ont toujours fait du 19 mars une date symbole. Ce sont les appelés, ce ne sont pas les officiers, ce sont les appelés. C'est un très grand groupe de mémoire de la guerre d'Algérie, puisque n'oublions pas qu'1,5 million de soldats, de jeunes Français, sont allés en Algérie. 1,5 million. Tous les hommes nés entre 1932 et 1943 sont allés en Algérie. Dans la société française d'aujourd'hui, ce groupe des mémoires est considérable. Il est énorme. Tous les gens qui ont aujourd'hui entre 70 et 75 ans sont allés en Algérie. Et donc pour eux, la date du 19 mars aussi, c'est important. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a entre les Européens d'Algérie, entre eux, la mémoire acquise, la mémoire des appelés d'Algérie, la mémoire des immigrés algériens, la mémoire des Algériens en France, c'est des mémoires vives, là-dessus je suis tout à fait d'accord, qui continuent de s'affronter. Et donc, à partir de là, le problème était d'essayer de trouver, de mon point de vue, une sorte de compromis, de consensus. Et à partir de là, quelle date choisir ? Jacques Chirac a essayé. Il a proposé le 5 décembre.
Pourquoi le 5 décembre ?
Mais ça ne représentait rien.
Précisément parce que ça ne représentait rien.
Ça ne représentait rien, précisément. C'était ça, oui. Le problème, c'est que ça ne correspondait à rien.
Oui.
Et ça a mécontenté à peu près tout le monde, parce que tout le monde a dit, mais ça ne correspond à rien. Alors, il y a eu la journée, effectivement, de septembre, en mémoire des Harkis, bien sûr. Et donc, restait à trouver cette forme de compromis, une sorte de compromis mémoriel pour essayer de faire en sorte que cette guerre se termine dans les têtes et dans les cœurs. C'est tout. Voilà. Alors, quelle peut être la meilleure date possible de compromis ? C'est une discussion, bien entendu. C'est une discussion ouverte. Le fait est, c'est qu'il faut réfléchir à cela,
mais
mettre fin à cette guerre des mémoires.
Oui, mais justement, est-ce que choisir la date du 19 mars, ce n'est pas faire l'impasse sur ce qui a suivi ? Vous avez fait allusion au 5 juillet 1962. Alors, je vais vous lire un récit du 5 juillet 1962. Vous allez me dire s'il correspond à la réalité, parce qu'on en parle peu en France. Je tire ce récit du livre de André Rosfelder, Le 11e commandement. 5 juillet 1962. au rang qui avait cru aux assurances des autorités françaises et s'était fié à la présence de l'armée, devenait à son tour vil martyr. Aux approches de 11h du matin, les divers quartiers européens étaient simultanément et soudainement mis à sac et à sang. Le général Katz, commandant les forces militaires et politiques de la région, appliquait les instructions de Paris et ordonnait à ses unités de se tenir couettes. La chasse aux Européens dans les rues de la ville se poursuivit jusqu'en fin l'après-midi. On les tua au fusil ou à l'arme blanche sur les trottoirs, dans les entrées d'immeubles, les escaliers des appartements. On les rassembla et on les emporta dans des camions et des autobus vers les quartiers arabes pour les torturer et les massacrer tout au long de la nuit sous les youyou des femmes. Plus de 3000 Oranais, de tout âge, souvent par familles entières, disparurent ainsi sous les yeux de leur propre armée, aveugle et sourde. La presse ne parlera guère en France de cette journée atroce puisqu'elle appartenait au nouvel âge. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé?
Bien sûr, et ça a été raconté dans 3 livres qui viennent de sortir depuis 2 ans. Et ça a été raconté par les travaux de Guy Pervilliers, les travaux de Charles-Robert Ageron, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, la plaidoirie de défense du général Katz, qui se défend des accusations très graves qui sont portées contre lui. Il a sorti un livre de mémoire pour défendre son honneur de général de l'armée française, très attaqué, très très vivement attaqué, bien sûr, par les Européens d'Algérie. Donc, encore une fois, lorsqu'il est question de cet aspect, et je ne parle pas des historiens algériens, qui eux aussi ont travaillé sur cette question-là, je pense aux travaux de Fouad Soufi. Le problème, c'est qu'en France, on ne connaît pas les travaux des historiens algériens, qui ont essayé eux aussi de faire la lumière sur cet aspect-là, sur ces enlèvements et ces massacres d'Européens. Encore une fois, je le dis, il faut reconnaître tous les aspects sanglants et terribles de cette histoire, ne pas avoir une mémoire borgne. Les enlèvements et les massacres d'Européens à Oran, je les ai racontés dans un livre que j'ai sorti en 1991 et qui s'appelle « La gangrène et l'oubli », la mémoire de la guerre d'Algérie, que j'ai sorti donc il y a 25 ans. Et j'ai donné très exactement le chiffre, en 1991, de 3024 tués, qui était le chiffre de la commission d'enquête parlementaire de 1963 et que j'ai repris et vérifié moi-même il y a 25 ans. Donc, de grâce, il faut arrêter de dire que les historiens ne travaillent pas, qu'on est au courant de rien, qu'il y a des occultations permanentes. C'est un espèce de leitmotiv sur la guerre d'Algérie depuis maintenant des années et des années, qui font fi des travaux, qui font fi des documentaires, qui sont publiés, qui sont diffusés à la télévision française. Il y a toujours, sur la guerre d'Algérie, sur l'Algérie en général, et sur cette fin de guerre en particulier, cette sorte de leitmotiv de la première fois, de l'occultation, du fait qu'on va chercher la vérité cachée, qui a été dissimulée, etc. Non, parce que dès 1963-65, il y a toute une série d'organisations d'Européens d'Algérie qui ont enquêté sur les massacres d'Oran. Il y a eu les travaux des historiens, il y a eu effectivement les plaidoiries en pour et en contre, et bien sûr le livre d'André Rosfelder, qui est un livre important parce qu'il était un grand ami d'Albert Camus.
Oui, d'ailleurs, il parle beaucoup d'Albert Camus dans ce livre.
Je dois dire que je ne fais absolument pas le procès des historiens et en particulier de Benjamin Stora et de tous les travaux qu'il a fait lui-même, conduit lui-même, ainsi que ses confrères. Pas du tout. Les historiens, je trouve qu'ils font leur métier et c'est à partir de leurs travaux que la mémoire s'établit. Mais la mémoire n'est pas que de l'histoire. Je veux dire par là que, effectivement, la mémoire est nourrie d'histoire. Mais si elle se transmet de génération en génération, c'est naturellement parce qu'il y a des familles de pensées, il y a des familles d'idées, il y a des familles politiques. Bon, quand le président de la République justifie le choix de la date du 19 mars pour commémorer la guerre d'Algérie, il la justifie en disant « mais enfin voyons, il y a déjà 4000 rues et monuments qui portent cette date dans notre pays. » Et vous avez cité à juste titre la FNACA qui porte et défend cette date du 19 mars depuis l'origine. Sauf que la FNACA ne s'est jamais cachée à l'origine d'être une filiale du Parti communiste. Et ensuite, naturellement, les choses se sont modérées, transformées, etc. Mais ses racines sont celles-là. À partir du moment où vous avez la FNACA dans le coup, vous ne pouvez pas empêcher les autres associations et unions d'anciens combattants de dire « moi, je n'y vais pas ». Et donc, la politique aujourd'hui, est évidemment inscrite aussi dans ces affaires de mémoire.
Tout à fait. Alors vous avez raison sur ce point, c'est que la mémoire n'est pas l'histoire et la mémoire peut interférer sur la fabrication du récit historique et que même la production innombrable de récits historiques n'arrête pas les saignements de mémoire. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est-à-dire qu'on a... On a beau écrire, on a beau commémorer, et pourtant les gens souffrent, les gens ont le sentiment d'être abandonnés, d'être seuls, dans une grande solitude mémorielle. Et sur la guerre d'Algérie, et sur l'Algérie en général, c'est particulièrement vrai. J'ai toujours été frappé, depuis très longtemps que je travaille sur cet aspect, de voir par exemple, lorsque je rencontre des Européens d'Algérie, des gens de ma famille ou autres, qui disent « personne ne parle de nous, nous sommes seuls », etc. Alors je voudrais dire un point sur la question de la transmission. Vous avez raison, parce que la transmission, elle passe par des familles politiques.
Bien sûr.
Elle passe par des organisations, elle passe par des structures. Sinon, la mémoire, disons, qu'est-ce que c'est,
hein, c'est bon. Bien, oui.
Et donc, on a eu effectivement une mémoire borgne, venant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la gauche française. C'est vrai.
Ah ben voilà. Voilà.
Mais c'est vrai.
Non, mais ça, c'est, je trouve très important vrai. Que vous le disiez.
Mais oui, c'est vrai, parce que vous savez, le premier personnage sur lequel j'ai travaillé, moi, en 1900, dans les années 75-80, c'était Messaliage, et ensuite j'ai fait la biographie de Ferhat Abbas.
Voilà.
Et donc, moi, je ne travaillais pas sur le FLN. Je travaillais sur ceux qui avaient affronté le FLN.
Ouais.
Et je m'apercevais, effectivement, à l'époque, je parle des années 70-80, ouais. que cette mémoire, elle était quelque part à gauche, dans des situations, disons, de recouvrement, de mise au secret de personnages. Mais c'était le cas aussi, malheureusement, de l'autre côté, à droite. C'était aussi le cas. C'est-à-dire qu'on valorisait à l'extrême un certain type de mémoire sans vouloir rentrer dans la compréhension de la souffrance de l'autre.
Mais
et c'est tout mon problème.
Mais ça, vous pouvez l'obtenir de l'historien. Vous pouvez l'obtenir de l'historien. Vous ne pouvez pas l'obtenir de la personne, de l'individu, de celui qui, dont
je
dirais la culture, le patrimoine intellectuel, etc.
Mais c'est le rôle d'un chef d'État ou d'un parti politique
ou
d'une organisation que d'essayer de réconcilier, de faire en sorte de faire confluer les récits.
Mais il ne suffit
pas. C'est ça le problème.
Il ne suffit pas de dire. Je veux la paix des mémoires pour que la paix des mémoires par décret soit faite. Non.
Mais la paix des mémoires française ou la paix des mémoires algérienne et française.
Alors justement,
en plus,
que c'est là la complication. Bien sûr, là vous mettez l'accent sur un grand problème de cette histoire. C'est que vous avez à la fois une guerre civile franco-française sur la guerre d'Algérie.
Oui.
On l'a vu à la fin de cette guerre, notamment,
avec
le fait qu'effectivement des gens se sont affrontés à un point tel que certains voulaient assassiner le général de Gaulle
bien
à
sûr.
Plusieurs reprises quand même.
Hein,
c'était pas n'importe quoi, notamment après le 19 mars. Bien. Et on a effectivement un problème de légitimité ou légitimation de l'histoire par les Algériens et par le pouvoir d'État algérien qui vient précisément avec cette histoire brouiller ou se légitimer. Ce qui complique à l'extrême, disons, l'écriture de cette histoire. Parce qu'il faut à la fois tenir le fil, disons, du dépassement d'une guerre civile franco-française et tenir le fil d'une possible et difficile réconciliation franco-algérienne dans une situation où les Algériens eux-mêmes, compte tenu de la nature de leur pouvoir, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter, ne font pas et ne vont pas jusqu'à un éclaircissement d'une histoire qui est la leur. Et qui n'est pas une histoire franco-française, mais une histoire algérienne, et donc qui retarde la clarification du passage de la mémoire à l'histoire.
Trois guerres civiles. Une guerre civile, effectivement, franco-française, je veux dire, les déchirements de la communauté européenne d'Algérie, de cette communauté européenne et de la communauté musulmane, un déchirement même et extrêmement épouvantable au sein de l'armée française, et évidemment une guerre civile entre Algériens. Guerre civile entre Algériens, est-ce que ce n'est pas cela qui va en reproduire une autre, celle des années 90 ?
Ça, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle La guerre invisible.
Et voilà.
Bon, mais simplement sur le 19 mars, pour en terminer sur le 19 mars, il faut préciser que ce n'est pas une date de commémoration d'une défaite ou d'une victoire, le 19 mars.
Ben
c'est une journée de deuil et de souvenir. C'est ainsi, disons, que le discours du président de la République a été formulé. Parce qu'il y a la pétition, effectivement, qui a été initiée, mais on n'a plus jamais parlé, à cause des événements que vous avez mentionnés, on n'a plus jamais ensuite parlé du fait qu'il s'agissait d'un discours sur un travail de deuil possible. Et c'est ce discours-là qu'il faudrait relire aujourd'hui.
Mais pour en revenir à la mémoire algérienne. J'ai le sentiment aujourd'hui que le pouvoir algérien fait en quelque sorte de la France coloniale le bouc émissaire de ses échecs et de ses turpitudes. Pour ne pas assumer la responsabilité de sa politique, il en revient toujours aux crimes coloniaux, il réduit le colonialisme à ses crimes, au risque d'ailleurs d'installer les Français d'origine algérienne dans leur grief. Il leur présente l'image d'une France coupable et jamais assez repentante, et cela aggrave les difficultés de l'intégration. Donc comment réconcilier les mémoires dans ces conditions? C'est aussi une question que se pose Boualem Sansal, l'écrivain algérien, dans un article du Figaro, où il dit que avec le 19, avec la commémoration du 19 mars, M. Hollande fait le choix de soutenir la dictature algérienne. Benjamin Stora.
Moi, je ne partage pas ce point de vue. Ce n'est pas parce qu'on essaie de trouver des compromis et des formes, disons, difficiles. Hein. Je parle de pédagogie à ce niveau-là, de recherche pédagogique pour essayer d'en sortir de cette guerre des mémoires, que pour autant, il y a une interférence avec la nature du pouvoir et de la dictature algérienne. Moi, je ne vois pas le lien. Si ce n'est le fait que lorsqu'on veut effectivement, ôter à la dictature, entre guillemets, algérienne, ce pouvoir de légitimité par la question historique, encore faut-il, lorsqu'on est algérien, parler aussi de la question qui a provoqué cette guerre, et donc dont on parle malheureusement pas encore jusqu'à présent dans cette émission, mais qui est l'origine de cette guerre. C'est-à-dire la question du système colonial. Je n'y peux rien. On ne peut pas parler de la guerre d'Algérie et de sa fin effroyable si on ne l'inscrit pas dans un temps plus long. Sinon, on est toujours dans l'instantanéité, on est toujours dans l'émotion, on est toujours dans la fin d'histoire. Il faut aussi replacer dans le temps long cette histoire. Pourquoi il y a eu des organisations indépendantistes? Pourquoi des personnages comme Ferhat Abbas, qui étaient partisans de la France et de l'assimilation républicaine dans les années 30, se sont retrouvés à la tête du FLN 30 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Donc on ne peut pas, du côté algérien comme du côté français, à mon sens, de mon point de vue, s'en tenir exclusivement à des discours, disons, d'instantanéité historique, d'engrenage extraordinaire, de fin cruelle, d'affrontement algéro-algérien ou franco-français, si on ne comprend pas les bouleversements, les drames qui sont ceux étalés sur une période beaucoup plus ancienne. C'est tout le débat qui est très difficile sur la guerre d'Algérie. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Dorcival et vous, Alain Finkielkraut, toute la difficulté à écrire cette histoire en rapport avec le fait que nous avons plusieurs guerres qui se superposent les unes par rapport aux autres. Mais il y a plus fondamentalement une difficulté, c'est celle d'inscrire toute cette histoire dans le temps long, dans le temps difficile qui est celui du 19e siècle et du début du 20e siècle, et de toutes les occasions qui ont été ratées, des bifurcations qui ont échoué, des soulèvements, des moments difficiles, disons, qui ont été ceux de l'Algérie française, comme des moments aussi où il y a eu grâce, disons, à ce qui s'est passé avec l'école républicaine, et qui a permis à toute une série, notamment de dirigeants algériens, je pense à des personnages très importants comme Hossein Aït Ahmed, comme Krim Belkacem, comme Mohamed Boudiaf, etc., qui n'étaient pas du tout des religieux ou des islamistes, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, ou même à Ban Ramdan, bon, mais qui étaient effectivement des gens qui ont fréquenté, qui étaient sur les bancs de l'école républicaine et qui se sont précisément, et qui ont utilisé les principes de l'universalisme républicain contre, précisément, l'injustice générée par ce système. Si on replace pas tout cela, alors oui, on arrive à des situations d'extrême contemporanéité, c'est pour ça que je disais que j'étais pas d'accord avec ce texte de Sansal, parce qu'il est dans l'immédiateté politique algérienne, sans précisément en percevoir toute la profondeur de la temporalité historique.
Oui, mais en même temps, vous avez bien compris que c'était commode pour le pouvoir algérien de trouver systématiquement un bouc émissaire. Vous avez raison aussi quand vous dites le temps long. La question, c'est quand on fait commencer le temps long? On peut le faire commencer au débarquement d'Alger en 1830, mais on peut le faire commencer à d'autres périodes. Il est frappant tout de même de constater que l'armée française sort épuisée, divisée, mais reconstituée en 1945 de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, qui est marquée en Algérie par des événements historiquement considérables, puisque il y a d'une part des législations qui sont celles de Vichy, qui s'appliquent en Algérie, et que c'est à Alger que débarquent les Anglo-Américains, que s'installe le gouvernement du général de Gaulle. Et en 1945, avec cette armée française qui est à la fois associée à la victoire et qui a montré qu'elle savait se reconstruire, il n'empêche qu'elle a subi des événements épouvantables. Ces événements sont tels que vous avez simultanément deux révoltes qui se produisent contre la France, l'une à Damas en Syrie, l'autre à Sétif en Algérie. Et donc, on voit bien la relation de force qui s'imprime à ce moment-là entre des groupes révolutionnaires, des groupes insurgés, des groupes qui ont une idéologie indépendantiste, autant en Syrie qu'en Algérie, et qui prennent appui sur la faiblesse démontrée par l'Occident dans ces territoires pour dire « maintenant, c'est notre tour ». J'ajoute que la Toussaint 1954, qui est le début de cette guerre-là, c'est un début, mais elle vient quelques mois après une défaite mémorable pour la pauvre armée française, celle de Dien Bien Phu. Comme si il fallait là encore que la faiblesse de l'armée française à un endroit donné et le fait que le pouvoir politique français n'existe plus, même si c'est Mendès France qui conclut la paix en Indochine, pour que des groupes en Algérie prennent le relais de ceux de Sétif et fassent enflammer une nouvelle insurrection. Et
qu'est-ce que vous en concluez de cette,
J'en conclue que, effectivement, chaque fois que l'un des partenaires s'affaiblit, l'autre se renforce. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un état équilibré vis-à-vis de l'Algérie telle qu'elle est. Nos relations sont aussi bonne que possible. On a signé un traité de défense. On a signé un traité de défense il y a 2 ans qui fait que nous pouvons intervenir librement au Mali, etc. Donc, il y a ces relations-là qui sont très fortes.
Sont très importantes.
Mais on en revient, cher Alain, au problème de la mémoire et de la mémoire historique qui fait que, à chaque moment, on nous renverra à la figure notre faiblesse à tel ou à tel moment.
Sur cette question de l'inscription dans le temps long, ce que vous décrivez, en fait, fondamentalement, à partir de 45, pour aller vite, c'est la décolonisation qui commence. C'est pas simplement l'apparition de groupes d'insurgés. C'est beaucoup plus profond que ça. L'Inde se décolonise, l'Indonésie, la fin de l'Empire britannique, la défaite française de Dien Bien Phu s'inscrit dans ce cadre-là, bien entendu, et non pas... Bon, on est dans un monde qui bascule. C'est un monde qui change complètement. On passe à une autre histoire. Et il y a eu, effectivement, sur la question algérienne, par contre, un blocage. C'est-à-dire que sur la question algérienne, à la différence de l'Indochine, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, etc., là, l'Algérie, c'est autre chose. C'est autre chose parce que l'Algérie, c'est la France.
Et voilà, ce sont comme des départements français juridiquement.
Comme le disait François Mitterrand
mais bien sûr.
En 1950, et Pierre Mendès France aussi, qui était absolument, disons, pour, comment dire, un refus de regarder la question nationale algérienne en face. Et donc les nationalistes algériens, donc Messali Hadj, donc Ferhat Abbas, etc., etc., qui n'ont jamais été reçus par aucun responsable politique français. Aucun, jamais. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le monde change, mais où les élites politiques françaises, les gouvernements politiques français, y compris à gauche, j'allais presque dire surtout à gauche, puisqu'ils exerçaient le pouvoir, notamment avec Guy Mollet à partir de 1956, ne regardent pas cette réalité en face. Les négociations, les discussions, les préparations de passage à l'indépendance, là, on arrive à la fin de la guerre d'Algérie. Se sont très mal passés. Le problème est là. Le drame d'Albert Camus, le drame des Camusiens, de ceux qui étaient ce qu'on appelle en situation intermédiaire, c'est qu'eux disaient, si nous restons dans un statu quo, la violence va se déchaîner. Il n'y aura pas la possibilité de la passerelle. Or, tout le problème, c'était d'essayer de préparer ces passerelles. Et vous le savez, je veux dire que quand la violence s'est déchaînée au maximum, notamment pendant la bataille d'Alger, où des Européens ont été tués, soit dit en passant, les débuts de violence contre les Européens n'ont pas commencé après 62, après mars 62. Hein. Je veux dire, il y a eu des bombes qui ont explosé, notamment, je pense au casino, à la Corniche, où il y a eu beaucoup d'Européens qui ont été tués, donc ça ne démarre pas en 62. Je ferme la parenthèse sur le plan historique. Mais tout ça pour vous dire que, dans le fond, la question du passage aux indépendances politiques n'a pas été suffisamment pensée, élaborée, préparée, planifiée. Oui, et c'est ça qui crée les situations d'engrenage et de violence.
Mais alors,
et c'est ce que déplorait un personnage comme
Camus. Alors, vous parlez de Camus, venue, mais justement la question que je me pose, et vous avez parlé aussi des occasions ratées, la décolonisation n'aurait-elle pas pu prendre une autre forme ? Et c'est-à-dire notamment avec le maintien d'une certaine présence des pieds noirs, une certaine présence française en Algérie. Et si ça n'a pas été possible, à qui faut-il en imputer la responsabilité ? Et là, j'en reviens au massacre d'Oran. N'y avait-il pas, de la part du FLN, une intention de pousser tous les Européens à l'exode ? C'est d'ailleurs Ben Bella qui le dit. Je ne pouvais pas concevoir une Algérie avec 1 500 000 pieds noirs. Il ne s'agit pas d'un acte de rejet, je vous assure. Je pense que les pieds noirs ont été des victimes, mais lucidement, ils n'étaient pas compatibles avec le projet de mon Algérie, une Algérie révolutionnaire, une Algérie qui avait des options socialistes, une Algérie disposée à combattre l'impérialisme. On ne pouvait pas avoir la prétention de faire l'Algérie telle que je la concevais avec un système de type Rhodésie. Nous reviendrons d'ailleurs peut-être sur la conception réelle qu'avait Ben Bella de l'Algérie. Mais voilà, je vous interroge là-dessus. Une occasion n'a-t-elle pas été ratée ? Et si tel est le cas, à qui la faute ? François Dorcival.
Ça, c'est une question qui mériterait beaucoup de débats en réalité. Et je vais pour autant chercher à y apporter quelques éléments. L'Indochine. Commençons par l'Indochine. Que se serait-il passé si le pouvoir était resté entre les mains de Leclerc ? Leclerc avait établi avec Ho Chi Minh des relations qui lui permettaient de négocier, c'est-à-dire d'entreprendre ce que Benjamin Stora disait pour l'Algérie dès le départ. Nous ne savons pas comment les choses auraient tourné. Bon, on ne refait pas l'histoire. Ensuite, nous sommes en Algérie. En Algérie, nous sommes dans des développements, des enchaînements. C'est ça le problème. Et les politiques, sauf De Gaulle à la fin, ne s'opposeront pas aux enchaînements. Et ces enchaînements, on a l'impression qu'ils sont inexorables. Alors naturellement, c'est toujours plus facile de les relire quand on connaît la fin de l'histoire. Mais tout de même, 1956 que vous citez, c'est Suez. 1956, c'est Suez, c'est-à-dire une expédition franco-britannique. Je rappelle que les Français avaient 130 bâtiments de combat, que l'ensemble de cette flotte, c'était pas franco-britannique, c'était 6 porte-avions. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Franco-britannique. Et qui va pour s'imposer en Égypte en coordination avec l'armée israélienne. Des choses absolument inimaginables aujourd'hui. Et nous sommes en 1956 et c'est Guy Mollet en Algérie. Cet enchaînement, c'est quoi ? C'est que l'ONU nous impose de nous retirer. À partir du moment où nous nous retirons, c'est aussi un déshonneur, cette affaire de Suez. C'est un ratage épouvantable. Et c'est dans cet état d'esprit, dans ce décor, que nous allons nous engager de plus en plus en Algérie. Et évidemment, comme les chefs algériens sont abrités par les chefs égyptiens, jamais on ne va pouvoir politiquement négocier avec eux comme la leçon nous inviterait à le faire aujourd'hui. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, nous sommes dans un enchaînement tel que tant qu'il n'y a pas eu De Gaulle qui, lui, l'a imposé contre lui-même, contre son camp, contre l'armée, les choses ne pouvaient pas se produire. Ne pouvaient pas, selon moi.
Benjamin Stora.
L'année 56, effectivement, est une année charnière parce que c'est le vote des pouvoirs spéciaux et l'envoi du contingent en Algérie, donc aussi. La guerre d'Algérie. Ouais. Ça, c'est vraiment le début de la guerre d'Algérie, que cet envoi du contingent par un gouvernement socialiste, par ce vote de mars 56. Mais l'année 56, c'est aussi l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, dont on n'a pas fêté le 60e anniversaire en France. Enfin, quand je dis fêter, dans le sens où on aurait pu parler un peu de Bourguiba, par exemple, dans l'actualité, parce que c'est un républicain, que c'est un personnage intéressant. On aurait pu parler du sultan du Maroc, qui a été un personnage considérable, qui a joué un très grand rôle, notamment dans la Seconde Guerre mondiale, dans la protection des Juifs, etc. Bref, je dis ça pourquoi ? Parce que, dans le fond, on ne connaît pas l'histoire du Maghreb, on ne connaît pas l'histoire des nationalismes, on ne connaît pas les luttes, les influences, les acteurs, les programmes. Et on est exclusivement centré sur une histoire très française. Et à mon sens, française dans le sens de la rétractation dont parlait l'historien Raoul Girardet. Hein. Oui. C'était rétractation nationale. Et puis Marcel Gauchet, je crois, qui a utilisé l'expression « nous sommes trop auto-centrés ». Or là, aujourd'hui, nous devons aussi, comment dirais-je, comprendre ce qui s'est réellement joué. Je parle de 2016, hein, dans cette histoire, pour ne pas éviter de recommencer et d'être dans des situations comparables. C'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire des enchaînements et des engrenages, dans une situation où les élites politiques et intellectuelles françaises de l'époque, je parle à l'exception de Raymond Aron, je veux dire qui, dès cette année de 56-57, et bien sûr Jean-Paul Sartre dans un autre registre,
oui, mais
dans
lui,
un autre
typé.
Registre, absolument, mais Raymond Aron,
oui,
et qui disait, voilà. Dans le drame algérien, et qui expliquait que la question était la préparation, le passage, la négociation, qui aurait pu effectivement, pour répondre à votre question,
ben oui.
Alain Finkielkraut, qui aurait pu effectivement permettre de faire en sorte que la minorité européenne d'Algérie puisse jouer un rôle essentiel dans
ça,
une sorte
FLN,
de mixité franco-algérienne.
Le et FLN, FLN le voulait-il?
Alors,
est-ce que dès le début, pour le FLN, le choix n'était pas justement de purger totalement l'Algérie
oui.
de toute présence européenne.
Alors voilà, là ça renvoie à ce que je disais à l'instant sur la méconnaissance qu'on peut avoir de l'histoire intérieure algérienne, c'est que le Ben Bella de 62 n'a rien à voir avec le congrès de la Soumam de 56. Dans le congrès de la Soumam en 1956, où Aban Ramdane, qui est un dirigeant algérien kabyle bien connu par les Algériens et je pense par d'autres, il y avait cette volonté de laïcité. De cette guerre, de cette société, etc. C'était énoncé en tant que tel dans le congrès, dans la plateforme hein, du congrès de la Soumam qui était tenu en Kabylie. Mais effectivement, dans la bataille entre dirigeants algériens, le rôle de l'armée des frontières, le problème, disons, de l'islam politique qui monte en puissance dans les rangs du nationalisme algérien, c'est vrai, c'est incontestable, mais les choses ne sont pas jouées d'avance. Les éliminations politique d'un certain nombre de dirigeants dont j'ai parlé tout à l'heure, n'était pas inscrite d'avance. C'est-à-dire que c'est une bataille. Nous sommes dans des batailles, comme aujourd'hui nous sommes dans des batailles. Lorsqu'on parle de l'islamisme, par exemple, politique par rapport à l'islam, etc. Nous sommes dans des batailles. L'histoire, elle n'est pas écrite d'avance. Elle n'est pas finie. C'est pas une histoire achevée. On doit prendre part à cette bataille, en encourageant ceux précisément qui sont pour la séparation du politique et du religieux, en insistant et en pointant les acteurs dans l'histoire auquel la jeune génération peut s'identifier. Or, on ne fait pas ce travail historique et intellectuel. C'est ça mon reproche principal que j'adresserai à un certain nombre de personnes qui sortent beaucoup, beaucoup de livres, mais qui, sur l'histoire intérieure des pays du Maghreb, dans le fond, la connaissent pas. On parle beaucoup des musulmans, par exemple, en France. Mais la plupart sont des Maghrébins qui viennent de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie avec une histoire particulière. Or, on ne connaît pas cette histoire particulière.
François Dansivard.
Le mot-clé, c'est islam politique. Effectivement, jusqu'à présent, comme acteur, on ne l'a pas beaucoup cité. Le FLN, qui veut une homogénéité du peuple algérien, qui veut la faire par la force, puisqu'il l'a faite par la force, en éradiquant tous ceux qui s'étaient trouvés dans le camp français. Il le fait grâce et avec l'islam, évidemment. Quand on revoit des documentaires, quand on revoit des documents d'époque, on voit bien que les fameux moudjahidines du moment, je ne sais plus comment on les appelait, les moudjahidines déjà.
C'est le titre du journal du FLN.
Oui, absolument.
Moudjahid,
oui,
c'est le combattant de la foi.
Oui, oui, tout à fait. C'est le combattant de la foi, vous l'avez dit. Et donc, ils se revendiquent de la foi. Et c'est pour ça qu'ils nous ont expulsés. Qu'ils nous ont expulsés, qu'ils ont fait en sorte que les églises soient transformées en mosquées, que les synagogues soient transformées en mosquées.
Alors justement, d'ailleurs, je voudrais citer ici...
C'est la fin de l'histoire, pardon. C'est pas le développement
oui, mais alors,
de l'histoire.
En même temps, c'est peut-être la fin de l'histoire, mais justement, ouais. Benjamin Stora, je voudrais vous confronter à un texte cité par Jean Birnbaum dans son dernier livre, Un silence religieux, que Pierre Maillot avait adressé à Esprit 4 ans après l'indépendance de l'Algérie. Il avait été lui-même très mêlé à ce combat, et il dit qu'il s'est rendu compte qu'il y avait eu deux guerres d'Algérie. La première était celle que nous avions vécue, guerre diplomatique, guerre médiatique, qui avait gagné au FLN l'ensemble des forces de progrès à travers le monde. C'est cette cause-là que nous avions défendue, mais une autre guerre avait été menée par le FLN, intérieure à l'Algérie et au monde arabe, non déclarée, non médiatisée, guerre secrète. Dans cette guerre-là, il n'était pas question de combattre pour le socialisme, la réforme agraire, la libération de la femme, les libertés démocratiques, mais il s'agissait de libérer la terre d'islam, de la présence de l'infidèle, de reprendre la reconquête qui remonte aux croisades. Il s'agissait de djihad. Je comprenais, dans ces premières années de l'indépendance, que le FLN n'aurait jamais eu le soutien des masses populaires avec les thèmes de démocratie, révolution, laïcité, modernité, bref, avec les thèmes occidentaux qu'il gardait pour sa politique extérieure.
Bah, écoutez, il y a un excellent livre qui explique qu'il y avait plusieurs FLN, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas le FLN. Gilbert Meynier a écrit, qui a produit un très grand travail en 2002 sur, à partir d'une masse considérable d'archives. Mohamed Harbi a écrit également une somme considérable, d'un livre qui est paru en 1980, il y a très longtemps, qui s'appelle Le FLN Mirage Irréalité, où il opère un travail de démystification, précisément, dans le récit officiel qu'a produit le FLN après coup. C'est-à-dire que pour se légitimer. Donc il y a tout un travail comme ça de décantation pour comprendre et situer les affrontements à l'intérieur du FLN. Alors c'est vrai que l'histoire que vous décrivez, l'histoire à la fin, bien sûr, c'est celle du départ de la minorité européenne, des Juifs d'Algérie, qui appartenaient à cette minorité européenne, mais qui étaient, entre guillemets, des indigènes, au sens où ils étaient présents sur la terre d'Algérie depuis des siècles, et pas simplement avec la colonisation française. Bon. Donc le départ terrible de toute cette histoire fait que nous avons eu une victoire idéologique et politique de ceux qui étaient les tenants d'une conception arabo-musulmane de l'Algérie, au détriment d'une conception plurielle de l'Algérie, contre laquelle combattent toujours les Algériens, et qui existe encore aujourd'hui. Ce combat existe. On a parlé de Boualem Sansal. Moi, je suis d'accord avec lui sur beaucoup. On a parlé, j'étais pas d'accord avec ce petit texte que vous avez cité, mais sur le reste de son combat, notamment depuis le printemps berbère de 1980, où j'ai moi-même joué un rôle. Enfin, j'ai combattu sur la question de la défense des libertés démocratiques en Algérie, avec le mouvement des femmes, le mouvement berbère, la question de la pluralité politique qui existe, la pluralité linguistique, la pluralité religieuse, toutes ces batailles-là qui sont reprise aujourd'hui en Algérie, eh bien, signifie que après, dans les années 70, on a un récit homogène, un récit uniforme, un seul héros, le peuple, une seule conception de la nation, effectivement, qui est une conception arabo-musulmane. Mais est-ce que pour autant, comment dirais-je, l'histoire, elle est finie en Algérie, elle s'est arrêtée? Je ne crois pas, parce que nous avons effectivement un pays immense, un pays mosaïque, un pays où le lien national est très fragile, est en construction aussi. La fin de la situation coloniale ne signifie pas la fin de la définition de la nation algérienne. Au contraire.
Boualem Sansal s'inquiète de cet avenir, puisqu'il dit les menaces dans le Maghreb et le Sahel sont si grandes qu'il est possible que l'Algérie explose et donne naissance à un Daesh 2.
Bien sûr.
Alors, moi, je ne sais pas si c'est le Daesh 2, mais ce qui est vrai, c'est que l'Algérie, qui est un pays immense, 5 fois la France, avec d'un côté les Touaregs, les Mozabites, les Chaouis, les Kabyles, les Algérois, les Oranais, enfin j'en passe, fait que la question centrale, une des questions, et je dis la question centrale, c'est celle de la définition de la nation en Algérie. La question nationale, j'allais presque dire en France aussi, mais enfin ça c'est une autre discussion, mais la question nationale, elle est essentielle en Algérie, elle est centrale. C'est-à-dire que débarrassés de l'hypothèque coloniale, alors les Algériens sont confrontés à leur véritable histoire, le rapport à leur ottomanité, par exemple, qui est très importante, la question turque, etc., le rapport au monde arabe, le rapport à la berbérité, toutes ces graves et grandes questions se reposent aujourd'hui. Et c'est cette question qui m'intéresse, moi. Et non pas exclusivement s'enfermer dans des débats à les limites, entre guillemets, religieux. Daesh 2, 3, 4. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, certes.
François Dansilva.
Mais tout propos qui commence par « c'est beaucoup plus compliqué que ça » tente à fusiller l'argument qui suit. Je dois dire que Boualem Sansal incarne notre débat. Pourquoi l'incarne-t-il? Parce que sa culture, sa langue, son élégance, il les a apprises de la France. Il a une langue superbe, qu'il écrit d'une manière absolument impeccable. La pensée qui est la sienne prolonge ce que nous avons dit, ou plutôt la précède. Car son attaque à l'égard de l'islamisme, c'est bien ce que nous disons. Et c'est bien aussi l'explication de ce que, pour se construire, l'État FLN avait besoin de cela. Mais il se trouve qu'il a eu lui-même affaire à plus islamistes que lui encore, avec une guerre civile, mais terrifiant, 250 000 morts.
Non.
On exagère.
Sur des inflations. Dès qu'il est question d'Algérie, 1,5 million de martyrs, 150 000 morts.
Alors vous les ramenez à combien?
Bon, c'est entre 100 000 et 150 000 morts.
C'est déjà pas mal. Et ça a duré pendant 10 ans. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est l'autre culture ou quel est l'autre bouc émissaire par rapport auquel se construit l'État FLN et le pouvoir algérien? Ils vous le disent aujourd'hui, c'est par rapport à Israël. Je suis frappé de voir combien quand vous discutez avec des hauts responsables algériens, tout va bien aujourd'hui quand il s'agit de parler des relations entre la France et l'Algérie. Et puis, à un moment donné, ça vient sur le terrain. Seulement, attendez, il faudrait quand même mettre fin, nettoyer cette affaire de conflit israélo-palestinien. Il faut mettre fin à ce pouvoir israélien fou, etc. Donc, la dérive aujourd'hui, c'est de transférer ce qu'était l'Occident, la France, etc., vers Israël.
Simplement, je voudrais dire un mot. On a beaucoup parlé depuis le début de cette émission de l'Algérie, du FLN, du pouvoir arabo-musulman, etc. Oui. On faudrait peut-être dire un mot de la France aussi et de sa mémoire algérienne.
Mais alors justement, quelques minutes. Alors je voudrais que, justement, puisqu'on parle de la France, de sa mémoire algérienne, je voudrais que vous parliez de la vôtre, l'un et l'autre. Vous n'aviez pas le même âge, mais tout de même, vous étiez contemporain de cet événement. Alors où étiez-vous? Que faisiez-vous? Que pensiez-vous, François Dorzival, en 1961-1962?
Moi, je suis de la génération, la première génération qui n'a pas été appelée en Algérie. Donc, de l'Algérie, je ne sais rien d'incarné. Donc, l'Algérie, pour moi, ce sont des affections. C'est une conviction française, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est à l'époque? C'est une aventure. Et cette aventure, c'est celle de la France grande, impériale, etc. Et donc, nos héros de l'époque sont, pour l'essentiel, des militaires. Et ceux qui ont incarné le combat de la France en Algérie. Et c'était ça, et purement cela. Donc, effectivement, c'était l'honneur, en quelque sorte, de la France et l'honneur de l'armée que nous défendions avec les activistes que nous étions.
La Fédération des étudiants nationalistes. C'est ça. Voilà. Donc, vous étiez militant de l'Algérie française.
Oui, tout à fait. Mais sur le sol parisien, et sans avoir jamais mis le pied en Algérie.
Est-ce que vous alliez à cette époque jusqu'à soutenir les actions de l'OAS?
Soutenir les actions de l'OAS, encore fallait-il savoir pourquoi elles s'étaient déclenchées, etc. Mais c'était le sujet et en même temps pas le sujet. Je veux dire par là qu'aujourd'hui tout ça paraît absolument fantasmagorique. Enfin bon, pourtant ces attentats ont été nombreux, ces tentatives d'attentats contre le général de Gaulle aussi. Il y avait, du romantisme jeune dans cette vision de l'OAS.
Benjamin Stora.
J'avais effectivement 12 ans au moment de mon départ d'Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'est d'abord le pays de mon enfance. L'enfance d'un pays qui a disparu, qui s'appelait l'Algérie française. Donc ça, c'est ce que j'ai raconté dans mon livre « Les clés retrouvées ». C'est ça, d'abord, l'Algérie. C'est aussi, bien sûr, à la fois la peur, parce que c'était une situation quand même de guerre, à Constantine, dans cette ville magnifique. Mais c'est aussi un souvenir de convivialité que j'ai raconté dans un autre ouvrage que j'avais dirigé avec Abdelwahab Meddeb, qui était « Histoire des relations entre juifs et musulmans », qui était une ville dans laquelle je vivais, qui était une ville judéo-arabe, une ville judéo-musulmane, où il y avait beaucoup à la fois de passages, de convivialité, de conflits aussi. Mais c'est un monde, c'était un univers qui a disparu lui aussi. Cet univers qui était à la fois chaleureux, solidaire, ouvert, puis en même temps en conflit, en même temps en rivalité, etc. Donc c'est tous ces souvenirs dans le fond qui continuent encore de m'habiter. Et puis aussi l'Algérie, c'est l'arrivée en France dans un pays qui n'était pas le nôtre en fait fondamentalement, parce que ça a été très difficile. L'arrivée, je raconte aussi cela, le déclassement, la chute sociale de mon père, ma mère qui a travaillé en usine. Qui n'avait jamais travaillé et qui s'est retrouvé dans une situation très difficile. On s'est retrouvé dans une banlieue à Sartrouville, donc de déclassement, de chute sociale, et puis la sortie par la République, par l'école, qui fait que je suis devenu aussi ce que je suis devenu. Mais ça a été... L'Algérie a été un formidable moment de connaissance et d'apprentissage pour moi. D'apprentissage de l'autre, de la langue, parce qu'on parlait à la fois l'arabe et le français, de l'hébreu aussi, puisqu'il y avait une très forte tradition juive en Algérie, notamment dans la communauté de Constantine. Donc de ce passage et de cette circulation entre différentes cultures que j'ai jamais oubliées.
Mais alors vous parlez justement de cette convivialité de Constantine. Et tout à l'heure, François Dorzival évoquait l'obsession d'Israël aujourd'hui en Algérie. Boualem Sansal insiste aussi sur ce thème. À travers Israël, c'est une espèce d'antisémitisme qui se répand dans ce pays. Comment expliquez-vous cela? Que s'est-il passé pour qu'il n'y ait même plus le souvenir de cette convivialité bien réelle?
Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on parle des discours d'État. On parle des discours du gouvernement algérien, on parle de tout cela. Mais quand vous discutez en Algérie avec des Algériens, il y a une nostalgie de la présence juive dans ce pays. Il y a des étudiants qui travaillent sur... C'est peu connu en France, je le sais. Mais il y a des gens qui, courageusement, travaillent contre le discours d'État à faire en sorte que cette présence juive soit reconnue dans l'histoire algérienne. On parlait tout à l'heure, vous savez, de la reconnaissance, de la pluralité. Ça fait partie de cela. Et contre ce discours d'État qui est très puissant, qui imprègne la société, bien sûr, qui traverse cette société, vous avez aussi à la fois de la nostalgie, du désir de connaissance et du désir de pluralité. Ça, c'est fondamental en Algérie. Et c'est pour cela que, effectivement, vous avez des écrivains comme Kamel Daoud, dont on n'a pas peu parlé, mais qui est très important.
Bon, on et a qui parlé, est menacé de, chez lui.
Mais qui vit en Algérie, bien sûr, de Boualem Sansal. Et lorsque nous avons fait cette conférence avec Abdelwahab Meddeb, Histoire des relations juifs-musulmans, à Alger, il y avait 400 Algériens qui sont venus nous écouter dans un grand silence et qui nous ont posé une multitude de questions sur cette histoire disparue.
Voilà. François Dorcival.
Voilà. Mais ça, c'est un trop joli mot de Benjamin Stora, la nostalgie de temps disparu. Pourquoi est-ce un joli mot? Parce que la réalité, c'est que en juin 1962, le père de Benjamin fait venir deux chef du FLN qu'il connaissait, pour leur poser la question « Quel va être notre avenir à nos Juifs dans l'Algérie indépendante ?» La décision n'est pas prise. La décision par la famille n'est pas prise. Et Benjamin l'a très bien raconté dans son livre, les deux chefs du FLN sont incapables de fournir une réponse, à la suite de quoi le père dit à la famille « Nous partons ». Et 130 000 Juifs sont parti progressivement d'Algérie. Aujourd'hui, il en reste à peine une centaine.
Écoutez, merci beaucoup François Dorcival, merci Benjamin Stora pour cette discussion. Alors, je voudrais citer vos deux derniers livres, Benjamin Stora, celui dont nous venons de parler, « Les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine », qui est publié chez Stock, et ce dialogue avec Alexis Génie, « Les mémoires dangereuses », suivi d'une nouvelle édition de « Transfert de mémoire », qui est publié chez Albin Michel. Les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est disponible. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Heures et malheurs de la société multiculturelle », mes invités seront Alain Renaud et Mathieu Bock-Côté. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui Michel Mestre, dans un instant Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, propriétaire, bienveillant ou impitoyable, avec Daniel Voldman.